Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonsoir à tous. Israël perd un F-16 au combat, appareil abattu par les défenses antiaériennes de Damas. Israël venait de viser des positions iraniennes en territoire syrien, correspondance de Téhéran. Machirata pour faire barrage au fascisme, faute de pouvoir compter sur la gauche divisée et trop peu réactive. Il y a une semaine, à Machirata, un militant d'extrême droite ouvrait le feu sur des réfugiés africains, reportage de Mathilde Imberti. SOS Homophobie s'apprête à se porter partie civile après l'agression d'un couple de jeunes femmes hier en gare de Conflans-Sainte-Honorine. La Russie appelle les belligérants en Syrie à la retenue. Recommandation formulée à la suite de bombardements israéliens sur des sites iraniens en territoire syrien. La DCA de Damas a alors riposté et abattu un F-16 qui s'est écrasé au nord d'Israël. À l'origine de ces événements, le survol du Golan par un drone iranien, le Hezbollah libanais estime que ces événements marquent le début d'une nouvelle phase stratégique. Téhéran, Siavosh Ghazi.
Le porte-parole de la diplomatie iranienne a qualifié de ridicule les accusations israéliennes sur le survol du territoire israélien par un drone iranien venu de Syrie. Pour couvrir ses crimes dans la région, Israël a recours à des mensonges contre les autres pays. La Syrie a le droit à la légitime défense face à Israël, a déclaré Bahram Rassemi. L'Iran est l'ennemi juré d'Israël et soutient militairement le régime syrien de Bachar al-Assad. Bahram Rassemi a également ajouté que l'Iran n'avait pas de présence militaire en Syrie et a envoyé sur place uniquement des conseillers militaires à la demande du gouvernement syrien. C'est la première fois que l'armée israélienne dit ouvertement avoir visé des cibles iraniennes en Syrie, où Israël a effectué ces dernières années de nombreuses frappes contre l'armée syrienne ou le Hezbollah libanais soutenu par Téhéran. Dans un communiqué de leur commandement conjoint, les forces alliées du régime syrien, dont le Hezbollah libanais, ont également nié toute violation de l'espace aérien israélien par un drone. Selon le communiqué, les frappes israéliennes ont pris pour cible une unité de drone utilisée pour la collecte d'informations dans la lutte contre les organisations terroristes, notamment le groupe État islamique.
Siavosh Ghazi à Téhéran, le président turc annonce la perte de 2 soldats, 2 pilotes d'un hélicoptère abattu près de la frontière syrienne. À Istanbul et Ankara, les forces de l'ordre ont procédé aux arrestations de 48 membres présumés de l'organisation État islamique. 48 dont 31 étrangers, si l'on en croit l'agence gouvernementale Anadolu. C'est sur le chemin de la Turquie que 2 djihadistes, membres d'une cellule d'exécution de l'organisation État islamique, ont été capturés le 24 janvier dernier par une force arabo-kurde. L'information a été communiquée hier. Il s'agit d'Alexander Amon Kote et d'Elshafi Elshir, tous 2 de nationalité britannique. Ils sont accusés d'être responsables de la détention et de la décapitation d'environ 20 d'otages, notamment des Occidentaux, parmi lesquels James Foley, son confrère Stephen Sutloff et le travailleur humanitaire américain Peter Kassig. Le journaliste Nicolas Hénin, enlevé en Syrie en juin 2013 et retenu en otage pendant 10 mois, a fait partie de leurs victimes. Il confie à Anne Fauquemberg ce que représente pour lui l'annonce de l'arrestation de ses geôliers.
Quand on a été victime du terrorisme, on a subi un traumatisme important, et aussi bien pour moi que pour mes proches, c'est un long chemin dont je pense avoir passé les plus grandes étapes, mais qui n'est pas terminé. La reconstruction reste très longue, et le fait de savoir que les gens qui m'ont fait ça ont été attrapés, sont punis, font face à leurs accusations, font face à leurs responsabilités, ça fait un bien fou et ça aide beaucoup les victimes.
D'où l'importance des procès.
Exactement. Et d'où d'ailleurs la frustration que je comprends de la part de la plupart des victimes des attentats terroristes en France ces derniers temps, puisque la plupart de ces attentats, leurs auteurs ont trouvé la mort au cours des attentats, et ça prive les victimes de procès significatifs. Donc dans le meilleur des cas, on a des procès de second couteau qui sont extrêmement frustrants parce qu'ils permettent assez peu d'éclairer ou de punir. Il est important d'avoir des procès significatifs, donc de réussir à capturer les vrais responsables, les confronter à leurs actes, à leurs responsabilités et les punir à la hauteur de des énormités qu'ils ont commises.
Le journaliste Nicolas Hénin avec Anne Fauquemberg. Au Mali, pas un jour ou presque sans un drame dû à l'explosion de mines, particulièrement dans la région de Mopti, où les islamistes armés ont intensifié leurs attaques ces derniers temps, avant tout contre des objectifs militaires. 5 personnes sont mortes hier après-midi, 18 autres ont été blessées sur la route reliant les localités de Dera et de Kona. L'atmosphère est lourde en ce moment en Italie. Ces paroles prononcées en début d'après-midi à Macerata par un manifestant antifasciste résonnent avec la mise en garde du président Sergio Mattarella contre, je cite, les risques très graves du nationalisme extrême. Sergio Mattarella s'est exprimé lors des commémorations des massacres perpétrés entre 1943 et 1945 à la frontière entre l'Italie, la Slovénie et la Croatie. Les troupes yougoslaves avaient précipité, morts ou vivants, des milliers d'Italiens dans des cavités naturelles opération de nettoyage politique et ethnique. La référence a plané et pesé sur Macerata. Macerata, où il y a une semaine, un homme se réclamant de la Ligue du Nord a ouvert le feu sur des réfugiés africains. Sur place, Mathilde Imberti.
Une semaine pile après la fusillade, une foule compacte défile dans les rues de Macerata. Des associations, quelques syndicats, des groupes à la gauche de la gauche, mais surtout des citoyens inquiets de voir monter la xénophobie, ou du moins ces manifestations. De Caserte, dans le sud du pays, Malik, jeune demandeur d'asile de Gambie, est venu avec des camarades de son centre d'accueil.
We are here for the Italian government.
Nous sommes ici pour que le gouvernement italien prenne en compte ce qui se passe. On parle d'êtres humains qui en tuent d'autres. C'est impossible. Ça suffit, le racisme.
Dans le cortège, on dénonce l'emballement des discours anti-migrants alors que l'Italie vote le 4 mars prochain et que la coalition de centre-droit est donnée en tête. Elena s'inquiète pour son pays.
Ça me semble paradoxal. Il y a 80 ans, on adoptait les lois raciales dans ce pays. Et on ne réalise pas, on a banalisé le discours raciste. Et de temps en temps, on s'étonne quand ce racisme se transforme en acte alors qu'il est dispensé tous les jours par nos hommes politiques à la télévision.
Des manifestants qui indigne du fait que le Parti démocrate, parti au pouvoir, ne soit pas présent à Macerata. Il a suivi l'appel lancé par le maire de la ville à éviter les rassemblements pour ne pas jeter de l'huile sur le feu.
18h07, vous écoutez le journal de France Culture. 7 jeunes gens de 17 ans interpellés hier après-midi en gare de Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines. 2 d'entre eux sont encore en garde à vue. Ils sont suspectés d'avoir violemment agressé 2 jeunes femmes en raison de leur orientation sexuelle. Joël Daumier est président de SOS Homophobie. L'organisation envisage de se porter partie civile.
Il y a eu des insultes qui ont été prononcées, des insultes à caractère homophobe. Les 7 agresseurs ont tiré les cheveux de ces victimes. Il y a eu des coups portés dans la nuque des victimes. Tout ça montre bien qu'aujourd'hui, en France, on ne peut toujours pas, en tant que couple de femmes ou en tant que couple d'hommes, vivre librement dans l'espace public tel qu'on est. Ça montre que l'homophobie, elle persiste, elle est là, elle est ancrée. On appelle à ce que cet agresseur soit sanctionné fermement. Nous, on peut se porter partie civile pour démontrer le caractère homophobe de l'agression et pour convaincre le juge qu'il y a eu une agression à caractère homophobe, parce que je vous rappelle, et c'est très important de le dire, que la loi française prévoit une aggravation des peines quand l'acte est à caractère homophobe. Donc pour nous, il est très important que le juge reconnaisse, s'il y a procès, le caractère homophobe de cette agression.
Réunis pour enraciner l'avenir et s'engager à prendre soin du bocage de Notre-Dame-des-Landes, où se sont retrouvés aujourd'hui pour fêter la victoire des milliers d'opposants à l'aéroport éponyme, abandonné le 17 janvier dernier par le gouvernement. Écho de ce rassemblement, dont un autocollant dit tout, notre rêve des Landes, avec sur place Anne Patinec.
Tout à l'heure, on a assisté à ce que les organisateurs ont baptisé le grand moment, dans une ambiance particulièrement festive, au son des fanfares, certains déguisés en carnaval. Symboliquement, ils ont mis le feu à un avion en bois afin de marquer l'enterrement définitif du projet après 50 ans de lutte. Ils ont aussi enflammé des effigies d'autres projets contestés, le centre d'enfouissement de déchets radioactifs de Bure ou le Center Park de Roibon en Isère par exemple. Une manière de dire que la très longue lutte a payé à Notre-Dame-des-Landes, elle pourrait aussi aboutir ailleurs. Les participants viennent d'ailleurs de toute la France. Certains ont passé la nuit dans le bus. Ils ont des profils très divers, des jeunes, des plus âgés, des familles. Certains sont aussi ici pour la première fois. Ils voulaient voir à tout prix à quoi ressemble cette ZAD, qui pour eux est synonyme d'avenir. Ils sont tous convaincus qu'une nouvelle page est en train de s'ouvrir et qu'il faut que les projets agricoles et sociétaux puissent continuer ici et que Notre-Dame-des-Landes continue à être une terre d'expérimentation.
Quelques mots de la météo. Avancée vers l'est d'une dégradation, un nouvel petit épisode de neige et de pluie verglaçante sur l'est et le massif central la nuit prochaine. De la frontière belge et de la Manche jusqu'au centre et le Poitou-Charentes, le temps deviendra plus changeant avec des averses d'abord limitées à la Bretagne, ailleurs des éclaircies. Ainsi se referme cette édition préparée avec Caroline Beneteau.